L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Je sais pas pour vous, mais quand je regarde des films, que je regarde des infos, que je lis des bouquins, je vois que des futurs dans lesquels j'ai pas spécialement envie d'aller. On parle que d'effondrement partout. Et j'avais envie de regarder comment un avenir pourrait être souhaitable. Et pour ce faire, je reçois Jean-Pierre Gou, qui est un entrepreneur dans l'énergie, qui est auteur d'un bouquin qui donne un avenir positif. Et je trouvais ça important de le recevoir parce que je crois que ce qui nous manque beaucoup, c'est un avenir dans lequel on a envie de se projeter sur les 10, 20 prochaines années. Vous êtes sur Volant, je suis Grégory. Si vous pouvez laisser un commentaire sur iTunes, ça serait génial. Ou 5 étoiles, tout simplement. Je vous laisse avec cette conversation. Allez, Volant, c'est parti. Donc, bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Grégory.
Comment vas-tu?
Eh bien, très bien, ce matin.
Tu as écrit deux romans.
Oui.
Qui s'appelle Le siècle bleu.
Oui.
Tomes 1 et 2.
Oui.
Pourquoi t'as écrit ces romans?
J'ai écrit ces romans au départ pour me rassurer. Pour me rassurer que il y avait un autre 21e siècle qui était possible dans lequel les choses se finiraient bien, quoi. Et donc j'ai essayé d'imaginer une narration alternative du début de ce 21e siècle. Donc c'est un roman qui est contemporain et une succession d'événements qui ferait que on irait dans un futur vers lequel on a envie d'aller. Et pour moi, quand je lisais à la fin des années 2000 tous les faits qui s'accumulaient sur les désastres écologiques, les désastres économiques, les désastres sociologiques, je me disais, mais il n'y a pas de voie possible. Mais je lisais aussi beaucoup de choses sur les solutions. Et pour les agencer, pour arriver à en faire une vision du futur, au départ, je voulais écrire un essai. Et puis la forme du roman s'est assez vite imposée parce qu'elle permet de mettre en scène les gens qui vont faire cette transition. Et c'est pour ça que j'ai choisi la forme du roman.
D'accord. Et alors du coup, c'est vrai que c'est intéressant, on avait cette discussion hier avec mes étudiants. Autant quand tu étudiais dans les années 60, on te projetait l'an 2000 avec des images qui étaient plutôt positives. Alors après, on a envie de croire aux voitures volantes ou pas, mais en tout cas, c'était les images qu'on nous projetait. Aujourd'hui, les images qu'on nous projette, elles sont extrêmement dystopiques. On est que dans l'effondrement, on est que dans la fin de l'humanité, à la fin du monde, etc., etc. Que ce soit dans les films, je pense à Will Smith, je pense à pas mal de films différents, que ce soit dans les bouquins. Enfin bref, on est que dans un futur qui est finalement pas très souhaitable, lui.
Non, mais c'est vraiment un problème de notre temps. C'est-à-dire que quand on regarde les créations littéraires ou les créations effectivement cinématographiques, si on prend par exemple Blade Runner 2049, même s'il y a de la technologie, etc., on est dans des mondes surpopulés avec des villes dans lesquelles on étouffe, avec des gouvernements qui contrôlent toutes les données, qui contrôlent le moindre de vos faits et gestes, et dans lesquels, en fait, on n'a pas envie d'aller et surtout pas envie d'amener nos enfants. Et c'est extrêmement problématique. Et effectivement, des futurs dans lesquels il y aurait eu des bifurcations ou des grands choix faits par l'humanité liés à des révolutions, des innovations ou des changements sociétaux, ben, il y a peu de gens qui explorent ça. Et c'est un vrai problème. Et je pense qu'il y a un pont à créer entre le monde en émergence qui est réel aujourd'hui, entre tous les gens, tous les changemakers qui s'occupent de réinventer le monde dans tous les champs de réinvention et dans tous les lieux de la planète, et les gens qui créent des romans ou des scénarios ou des séries pour qu'il y ait un pont entre les deux, pour en faire un matériel narratif. Et ce pont n'existe pas, donc là il y a un vrai besoin que les gens qui écrivent des scénarios se penchent là-dessus. Puis il y a aussi, on va dire, un fond marketing dans tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent oui mais des histoires qui se terminent bien ou des mondes utopiques, ça fait pas vendre quoi. Mmh. Alors ça c'est complètement faux, parce que quand vous regardez les Avengers ou Star Wars etc, enfin on a quand même des gentils qui se battent contre des méchants, puis à la fin ça marche bien, et les happy ends ça fait toujours vendre quand elles sont bien narrées, mais il faut un scénario dans lequel il se passe des retournements où justement le futur positif ou souhaitable il advient pas facilement, et que c'est lié aux efforts des héros et héroïnes de la fiction qui arrivent à ça. Et il y a moyen de faire des fictions qui soient trépidantes et qui se finissent bien et qui ouvrent vers des futurs positifs. Voilà, après peut-être que cette dimension marketing, il suffit qu'il y ait un gros succès de ce type-là, plus utopique que dystopique, pour que d'autres, c'est assez moutonnier hein, Hollywood ou le monde des romans. Et voilà, donc moi quand j'avais écrit Siècle Bleu, justement il y avait des gens qui avaient dit ça, oui ça va être difficile parce que les gens aujourd'hui ils veulent lire du livre écologique catastrophe. Mm-hmm. Bah, aujourd'hui les lecteurs sont extrêmement contents de ce livre et il y a des retours énormes, ça donne une énergie énorme aux gens. C'est un roman qui est réaliste parce que c'est pas une utopie qui est basée sur une autre planète dans une autre époque ou avec d'autres types de technologies. On parle du monde de maintenant avec toute sa noirceur, on va dire, et au lieu d'en déduire une catastrophe, et ça c'est le fruit de l'extrapolation en prospective. Si vous extrapolez toutes les choses qui vont mal aujourd'hui, vous arrivez nécessairement au monde de Blade Runner 2049. Parce que les gens qui font ça, ou tous les gens qui parlent d'effondrement oublié, c'est qu'il y a quand même des hommes et des femmes qui vont se dresser contre ces futurs dont on ne veut pas, pour inventer d'autres choses et faire passer à l'échelle ces solutions. Et c'est ce facteur humain qui est à la fois la cause des problèmes, mais qui peut être la solution, qui sont pas pris en compte dans ces scénarios. Et il y a une énergie aujourd'hui de réinvention qui est énorme, et il faut arriver à la capter dans ça. Et moi, je suis un intime, je suis intimement persuadé que, effectivement, il y a tous les signes pour un grand effondrement, mais il y a aussi tous les signes pour un grand émerveillement. Les choses peuvent aller très vite dans ce sens. Et moi, c'est ce que je raconte dans le livre, comment en 28 jours, on peut changer l'état d'esprit à l'échelle planétaire, et comment une succession de hasards qui sont pas si gros que ça, mais un certain nombre d'événements combinés peuvent créer en fait une sorte de crise positive, une révolution positive qui embrase la planète et qui fait qu'on peut plus revenir en arrière. Et ça peut advenir, et on le voit bien aujourd'hui, dès qu'il y a des révolutions dans certains pays, ça part de rien, et on peut arriver au pire ou au meilleur à la fin. Et ça dépend juste de facteurs très hasardeux, mais ça dépend aussi des intentions qu'on porte sur le monde, et les intentions sont extrêmement fortes. Si on a des intentions comme quoi ça va bien se passer, les choses peuvent advenir du bon côté.
C'est un petit peu ce qu'a voulu faire le documentaire Demain.
Ouais, tout à fait. Donc Demain, c'était le parti pris, c'était de montrer que la réinvention par exemple de l'agriculture, de l'école, de l'énergie, de la démocratie et de l'économie, puisque ça c'est les cinq pans du documentaire, combinés ensemble arrivent à créer quelque chose qui se tient. C'est-à-dire on pourrait se dire tiens, une ville pourrait fonctionner comme ça. Donc c'est une façon de se représenter une autre façon de vivre, dans lequel les gens ont l'air heureux, ils vivent peut-être un peu avec moins sur le plan matériel, puisque la crise qu'on a, c'est essentiellement une crise matérielle, c'est-à-dire notre rapport avec la matière, elle doit changer complètement, puisque c'est ça qui gouverne notre rapport avec Gaïa, la Terre. Et le film Demain peut montrer que peut-être on a un peu moins de consommation matérielle, mais on a beaucoup plus de bonheur et de relations humaines, et on voit des gens qui ont les yeux éclairés dans ce documentaire. Et c'est un film qui a inspiré les gens pour s'engager dans ce monde et le passer à l'échelle.
En fait, ce qui est intéressant, c'est une discussion qu'on avait eue au téléphone de mémoire. Je crois que, alors effectivement, on a un problème avec le rapport au matériel, mais qui a un problème de croyance finalement. C'est-à-dire que dans notre monde, quelque part, la croyance, c'est que le bonheur, c'est le succès, c'est l'argent, c'est le fait de posséder. Et en fait, c'est cette croyance, à partir du moment où tu changes cette croyance, t'arrives à changer sans doute ton rapport aux choses, notamment.
La croyance, en fait, c'est comme une religion. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'est pas dans cette croyance, on est quoi? On est soit un marginal, soit un héritier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de tout ça et puis qu'il vit différemment, mais sinon on est un marginal ou un résistant ou un opposant au système, alors qu'en fait, ce système, il est mortifère et on voit bien ses limites aujourd'hui. Et ce qu'il faudrait, c'est que les gens qui paraissent comme, je dirais, les résistants ou les opposants à ce système soient plutôt les gens qui soient sensés plutôt qu'insensés. Et enfin, ceux qui sont insensés, c'est ceux qui pensent qu'on pourra ne rien changer, quoi. Tu vois, c'est évidemment qu'on devra changer. Et ce changement d'échelle de valeur, d'état d'esprit, c'est le grand enjeu. Alors on peut le prêcher, dire on le veut, on le veut, on le veut, ça suffira pas. Ce qu'il faut, c'est par des réalisations qui passent à l'échelle, faire que ce dogme dominant, tout le monde a envie d'y aller, et que l'autre s'effondre dans le sens où les gens n'ont plus intérêt, c'est-à-dire que se déplacer massivement, se nourrir de certaines choses, ou avoir certains types d'attitudes, ça soit plus des choses qui soient, on va dire, sociétalement vues comme quelque chose de positif. Et les gens peuvent changer très rapidement d'attitude là-dessus. Et voilà, si des films, si des artistes, si des choses donnent l'exemple, et d'autres types d'exemples sur d'autres chaînes de valeur, ça peut se répandre comme une traînée de poudre.
C'est-à-dire, en fait, moi je vois deux mouvements parallèles. Finalement, il y a un mouvement qui va dans le sens de ce que tu décris, c'est-à-dire toute cette émergence de recherche de sens, de yoga, de méditation, qui va vraiment dans ce sens-là, je crois, même si c'est très individualiste. Aujourd'hui, on a quand même perdu cet esprit collectif, mais enfin, il y a quand même ça qui monte. Et de l'autre côté, évidemment, c'est même pas qu'on a... une projection négative, c'est qu'on a même plus de projection, c'est-à-dire qu'à part la Chine, qui a effectivement une longue projection sur plusieurs décennies, en Occident, on a plus du tout de projection, c'est-à-dire qu'en fait, on vit au jour le jour, donc on continue à vivre de la même manière, sans vraiment être capable de se projeter dans un monde dans 10 ans ou dans 20 ans.
Et ça, c'est vraiment l'énergie qui manque aujourd'hui, c'est-à-dire que ces émergences, comme il n'y a pas une vision qui va porter vers l'avenir tout ça pour le faire passer à l'échelle, en fait, souvent, elles sont individualistes ou ultra-locales, et le fait d'en faire un mouvement, bah, il faut que le futur agisse comme un attracteur, ou ce futur agisse comme un attracteur pour passer toute la société à l'échelle. Donc ce travail de vision ou de récit, c'est un travail qui est extrêmement important pour faire que ces initiatives individuelles, que ça soit prendre soin de soi, les gens se replient là-dessus parce qu'il leur reste que ça, et puis ils se créent une petite prison, ou pas une prison, mais un petit havre de paix par rapport à une société dont ils veulent plus, mais c'est une forme de fuite intérieure. Alors le yoga amène pas que ça, et puis il y a des formes de méditation qui sont collectives dans lesquelles on peut porter des intentions collectives, mais effectivement cette énergie et ce centrage des humains est extrêmement utile pour la suite, donc c'est bien que les gens fassent ça, mais derrière ça doit aller avec un engagement qui va vers la société, qui va vers les autres. Et il y a beaucoup de gens qui font du yoga et qui sont aussi impliqués dans des ONG ou des mouvements, heureusement, et ils sont pas tous en retraite dans des ashrams, même si ça fait pas du mal de faire des retraites dans des ashrams, mais ce qu'il faut, c'est que voilà, qu'il y ait des visions qui entraînent, et que ces visions, elles fassent paraître le système tel qu'il est comme complètement obsolète. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas de critiquer ou de détruire. Une fois que ça paraît obsolète, parce qu'on a montré quelque chose vers le